Bonjour David, bonjour à tous. Le futur magasin utile sous les Halles de Bressuire verra bien le jour, mais à une échéance un peu plus longue qu'initialement prévue. Le département des Deux-Sèvres entend favoriser le retour à l'emploi des quelques 6000 bénéficiaires du RSA. La Fédération départementale des chasseurs tenait son assemblée générale hier à Bocquepol-Bressuire. La drôle de quête d'Azélie, le premier roman mystique du Toircé Baptiste Sébron que vous entendrez dans ce journal. Guillaume Guirado, ancien capitaine du 15 de France de rugby en bocage hier, l'occasion de le faire réagir sur les récentes révélations de Sébastien Chabal sur son état de santé. Quant à la météo, le temps devrait se dégrader cet après-midi. Les futurs clients du magasin utile de Bressuire peuvent être rassurés face à des travaux toujours pas démarrés sous les halles de la ville qui doivent accueillir en son nouveau magasin. Le gérant Lionel Laville, également patron du super-rue de la Châtaigneraie, se veut en effet rassurant. Les transactions sont en cours et l'ouverture annoncée pour début septembre est simplement repoussée à l'année prochaine. Les précisions de Lionel Laville, justement au micro-colline de Jacqueline Pinon.
Alors, il n'y a aucune inquiétude à avoir. On est rattrapé par la réalité de la réglementation en France et de tous les process qu'on doit mettre en œuvre dans le cadre de la construction d'un magasin. Et donc, effectivement, on ne sera pas au rendez-vous du mois de septembre. Et ce sera au mieux en toute fin d'année, voire janvier 2026.
Mais vous rassurez ?
Oui, il n'y a aucune ambiguïté de ce côté-là. C'est juste un problème de planification qui, en plus, avec l'été arrivant, qui ne simplifie pas les choses.
Normalement, si tout va bien, cet été, peut-être en juin, on verra quand même démarrer les travaux dans le meilleur des mondes.
Là, dans les étapes qui viennent, c'est le dépôt du permis de construire, avec derrière la signature aussi du bail avec la mairie. Et une fois que ces deux choses-là seront mises en œuvre, eh bien, on pourra commencer de déconstruire et reconstruire certainement, on va dire, à partir de la rentrée. Et il faut considérer qu'une fois qu'on a commencé, il y a à peu près 4 mois et demi de travaux, c'est ce qu'on a estimé.
Alors rappelons que face à un défaut de structure de la charpente, le magasin installé rue de la Verne en centre-ville de Bressuire avait dû fermer il y aura 2 ans, jour pour jour demain, avant de trouver une solution de remplacement dans un autre lieu, toujours en centre-ville, mais sous les Halles. Un déménagement qui nécessite donc des travaux pour accueillir ce commerce d'hyper proximité. Le département des Deux-Sèvres entend favoriser le retour à l'emploi des bénéficiaires du RSA. Lors d'une récente séance publique, les débats se sont concentrés sur l'accompagnement des 6000 bénéficiaires de ce revenu de solidarité active. La séance a été l'occasion de lancer un appel à projet doté d'une enveloppe financière d'€1,377,000 pour 2025 pour les différentes mesures. Il a aussi été question de la nouvelle loi qui impose désormais 15 heures d'activité obligatoire pour les bénéficiaires. Et cela préoccupe les élus du groupe de gauche, écologiste et citoyen. Élodie Truong en fait partie.
On a cette crainte qu'il y ait des sanctions si les droits et devoirs de cette prestation sociale ne sont pas observés. Alors effectivement, ce sont des éléments qui sont donnés et dits par la loi, mais en l'occurrence, on sait que le retour à l'emploi n'est pas la seule entrée aujourd'hui du RSA. On a aussi une question de lutte contre la pauvreté et que le retour à l'emploi, la difficulté d'accès à l'emploi, il peut être aussi beaucoup plus largement impacté par les conditions de vie des personnes, que ce soit sur la santé, sur l'accès au logement, sur l'accès à des services publics comme les services de garde, sur l'accès à la mobilité et sur des variables qui sont aussi des variables psychosociales, la santé mentale des personnes, la santé psychologique des personnes.
Réponse d'Olivier Poirot, le vice-président du département en charge de l'insertion sociale et professionnelle. Il n'y a pas d'inquiétude à avoir.
Ces 15 heures d'activité, ce n'est pas que du travail. Ça peut être aussi de la formation, ça peut être l'apprentissage du permis de conduire. Voilà, donc c'est pour les mobilités. Donc voilà, c'est bien plus large. L'activité n'est pas qu'une activité professionnelle. Faut pas angoisser les personnes qui aujourd'hui sont RSA sur des dispositifs qui leur paraîtraient trop durs. Voilà, c'est vraiment dans l'accompagnement et de choisir effectivement les agents du département qui vont les accompagner, vont essayer de mettre en place les meilleurs dispositif pour eux et sur ces 15 heures d'activité. Mais c'est pas, mais faut pas le voir comme une contrainte, mais peut-être justement comme un envol, enfin en tout cas une piste d'envol pour quelque chose de meilleur demain.
Olivier Poirot, vice-président du conseil départemental en charge de l'insertion sociale et professionnelle, également au micro de D4B. La grand-messe des chasseurs des Deux-Sèvres réunit hier à Beaucapaule près de 1200 chasseurs confortablement installés pour écouter le président de la fédération départementale insister sur un message réitéré chaque année. La chasse n'est pas assez reconnue à sa juste valeur pour sa contribution à la société. Il nous faut donc agir pour une chasse durable, assumée et utile à la société. Vitalino.
C'est la raison pour laquelle nous avons mis en place un cap politique fort que nous avons intitulé « Agir pour une chasse durable, pérenne et utile à la société » et qu'à l'intérieur de ce cap politique, nous avons décliné un certain nombre d'actions dont la première est l'amélioration de la biodiversité couplée à l'éducation à la nature.
Si 9180 chasseurs, fusils en bandoulière, ont sillonné les 470 000 hectares chassables du département des Deux-Sèvres, leur nombre continue de baisser, 370 de moins au dernier pointage.
Il faut savoir aujourd'hui que la chasse en Deux-Sèvres est composée de 1377 adhérents territoriaux, ce qui représente un maillage extraordinaire sur le département, et 9180 chasseurs. Certes, en baisse de 3,27%. Néanmoins, il faut observer avec satisfaction le passage réussi de 173 nouveaux permis et le parrainage de gens qui s'étaient arrêtés de chasser à hauteur de 77 qui ont rechassé cette année. Donc, ça nous amène une certaine satisfaction. Le taux de réussite du permis de chasser est de 82% en Deux-Sèvres, alors qu'il ne s'élève qu'à 65% en France. Preuve de la bonne qualité des collègues qui sont chargés de faire passer ce permis de chasser.
Des chasseurs qui jouent un rôle actif dans le prélèvement du gibier, 11 000 lièvres, 150 cerfs et 3 000 sangliers prélevés cette dernière année.
Vous citez un bel exemple d'action des chasseurs utile à la société, c'est-à-dire qu'il nous faut avoir une attention toute particulière sur cette espèce-là pour en réguler les dégâts, de façon à ce qu'ils ne soient pas trop importants et qu'ils ne pénalisent pas l'ensemble des agriculteurs pour les récoltes, voire provoquent des collisions routières pour l'ensemble des concitoyens. C'est la raison pour laquelle nous avons un prélèvement aujourd'hui de 3000 sangliers et que c'est une attention toute particulière pour que cette chasse puisse continuer de faire les prélèvements nécessaires au bon déroulement de l'ensemble des activités, que ce soit agricole ou que ce soit en limitant un maximum les dégâts routiers en raison des collisions.
13 500 cerfs ont également été abattus, chiffre sur 3 ans cette fois, précisé le président Talino, qui souligne encore l'un des fers de lance de la fédération, celle de l'éducation à la nature, qui passe par des actions comme la plantation de haies avec les écoles, 10 km réalisés en 2024, par un inventaire des chemins ruraux en collaboration avec les habitants, ou des éco-rando pour suivre le travail des chasseurs, pour ne citer que ces quelques exemples. Reportage signé Jacqueline Pinon. Le premier roman mystique de Baptiste Cébron, La drôle de quête d'Azélie, c'est le titre du premier roman de fiction de l'ingénieur et historien touarcé Baptiste Cébron. Son précédent ouvrage consacré à la petite église au cœur du Poitou adoptait un ton historique puisqu'il faisait partie de son cursus universitaire. Cette fois, le Touarcé a plongé dans le mystique et la spiritualité. Les deux héroïnes principales, Azélie et Chantal, sont les piliers d'une paroisse en Poitou. La suite, c'est l'auteur qui la dévoile en partie, seulement au micro-colline de notre correspondant Touarcé, Dominique Hérault.
Azélie est une trentenaire qui annonce à Chantal être atteinte d'un cancer et soudain Chantal disparaît. Et puis Azélie va avoir des indices pour partir à la recherche de Chantal. Donc c'est en quelque sorte un jeu de piste, ou comme on dit un escape game, qui va mener Azélie sur différents lieux. C'est une quête qui l'amène donc à la recherche de Chantal, mais surtout à la recherche de l'espérance, puisque même dans les terribles épreuves, nous chrétiens, nous pensons que nous ne sommes jamais seuls et qu'il y a bien sûr la personne de Dieu qui est juste à côté de nous. La guérison s'accomplit quasiment tout le temps par aussi un acte de conversion en fait. Et donc effectivement, Lourdes était un passage inévitable quand on parle de malade. Et c'est pour ça au départ que Azélie ne veut absolument pas aller à Lourdes. Et c'est bien le point de départ du jeu de piste que Chantal va concocter.
On devine des odeurs d'encens, des mystères de sacristie, des prières et du sacré, avec l'impression d'une enquête ou d'un road movie poitevin, parfois rocambolesque, comme cette équipée de motards totalement improbable qui donne du sel au roman. La résilience imprègne ce roman. Baptiste Cébron y a trouvé un exutoire.
Ce qui m'a donné l'envie d'écrire, alors déjà c'est une situation personnelle puisque j'ai été moi-même malade et justement on m'annonçait des avenirs un peu sombres et donc j'avais besoin de me sentir un petit peu boosté. Puis bah, j'ai trouvé dans la foi et puis quelqu'un qui dépoussière, qui décoiffe et qu'on a envie de suivre. Et donc ça m'a inspiré le personnage de Chantal pour montrer que eh bien même si on traverse des épreuves, on peut toujours être joyeux quand même.
Dans cette histoire, la peur de la mort cède le pain à la vie car Azélie doit donner le jour à un enfant alors qu'elle souffre d'un cancer. Un suspense existentiel plane sur les 177 pages de ce roman édité par les éditions Cazard, spécialisé dans cette ligne éditoriale. Cazard annonce d'ailleurs que le cap des 1500 exemplaires vendus est quasiment franchi pour La drôle de quête d'Azélie. Quelques semaines seulement après son lancement, une bénédiction en somme. Reportage signé Dominique Hérault. L'ancien capitaine de l'équipe de France de rugby, invité du club Les Entreprises du Bocage Bressuire hier soir à Moutier sous Chantemerle, la Guillaume Guirado, talonneur de Perpignan, Toulon ou encore Montpellier, a ainsi évoqué son rôle fédérateur dans le monde de l'Ovalie, mais aussi dans le monde des assurances dans lequel il évolue aujourd'hui. Mais l'actualité du rugby, ce sont les révélations récentes de Sébastien Chabal, autre ex-international qui déclarait il y a quelques jours ne plus se souvenir de ses matchs, victime de séquelles neurologiques. Guillaume Guirado a tenu à réagir et à alerter.
Après notre carrière de rugby, on a une vie hein, qui nous attend et rien de pire que de plus se rappeler de ce qu'on a pu faire. Donc voilà, d'entendre des paroles comme ça, mais c'est alarmant aussi. Ça fait résonner en soi que ben, aujourd'hui, il va falloir qu'il y ait encore plus de suivi, même si par rapport à la génération de Seb, ça a bien évolué. Moi, je l'ai vu arriver le protocole commotion, justement ce suivi avec des neurochirurgiens, des neurologues. Ce qui aujourd'hui me fait le plus peur aussi, c'est le monde amateur. Aujourd'hui, dans le monde amateur, il n'y a pas tous ces protocoles, il n'y a pas tout cet accompagnement. Je vais aller plus loin aussi par rapport aux jeunes, sur le fait qu'il y a eu beaucoup d'événements tristes et des jeunes même qui sont décédés par rapport à des chocs. Je veux parler aux éducateurs pour qu'ils aient un œil très sensible d'accompagnement et de pas voilà fermer les yeux si on voit qu'il y a un joueur qui peut avoir des troubles ou quoi que ce soit. C'est l'accompagner, suivre et ne pas prendre de risques quoi.
Guillaume Guirado, invité hier soir du club Les Entreprises du Bocage Bressuire au micro-colline de Vincent Nori. Ce sera l'une des dates phares de la saison pour la salle Hesperida de Louzy. Demain soir à 20h30, la chanteuse pop Siléto, qui a connu un énorme succès avec son tube Faut que tu m'aimes, se produira en effet sur scène autour de son tout premier album Fille Lacrymale. Tarif 27,20€, 22€ en tarif réduit. La médiathèque de Thouars propose un moment privilégié des parents avec les tout-petits jusqu'à 3 ans pour partager un moment particulier de rencontre avec le livre. Pour cette séance seront mises en valeur les nouveautés de la médiathèque et les coups de cœur des bibliothécaires. Ce doux moment aura lieu demain samedi à partir de 10h. C'est gratuit, mais sur inscription au 05 49 66 41 86. La compagnie de gendarmerie de Bressuire prévient que des contrôles routiers seront effectués sur le secteur nord du département, dans le triangle de son ressort, à savoir Mauléon, Bressuire et Thouars, durant ce week-end prolongé de Pâques. Les contrôles ont d'ailleurs déjà débuté. Ainsi, hier après-midi à Mauléon, les gendarmes cerisiens ont constaté qu'un véhicule circulait à vive allure sur la RM 249. Ce dernier collait le véhicule des militaires de très près, puis a effectué un dépassement à très grande vitesse. La voiture a été interceptée. Il ressort rapidement que le permis de conduire du conducteur n'était plus valable depuis 5 ans. De plus, le dépistage aux stupéfiants s'est révélé positif. Toujours hier, toujours sur cette RN 249, de nouveau du côté de Mauléon, une camionnette a été contrôlée à 137 km/h au lieu des 110 maxi autorisés. Elle présentait une plaque d'immatriculation non conforme et n'était pas assurée. Le conducteur qui plus était au volant sous l'emprise de l'alcool et de stupéfiants, même sanction que pour l'automobiliste présent, plus de permis et véhicule mis à la fourrière.